Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien? Excellent. Alors, je vous invite à prendre avec moi la première lettre de Pierre au chapitre 5. Nous allons conclure ensemble cette lettre aujourd'hui. On raconte que, à la veille de la bataille pour l'indépendance, le président des États-Unis, Washington, se promène sur le champ de bataille. Et puis là, il voit des soldats qui sont en train de péniblement tirer un canon. Alors il s'approche d'eux, et puis il prend un bout de corde, et puis il commence à tirer avec eux. Et à côté se trouve un caporal qui est en train d'hurler, de leur dire d'aller tirer plus fort, de leur donner des conseils, de leur dire comment ils devraient faire pour tirer ce canon. Et Washington le regarde, il dit « Mais pourriez pas venir peut-être nous aider ?» Et il lui répond « Mais moi je suis caporal. » « Bien, lui dit le président, il continue de tirer, il déplace le canon. » Et puis, quand tout est terminé, il se tourne vers le caporal et lui dit « Écoutez, s'il y a encore quelque chose de pénible à faire, appelez-moi. Je suis Washington. » La vie chrétienne décrite par Pierre dans son épître ressemble à un champ de bataille. Un champ de bataille où nous luttons. En fait, nous luttons et nous apprenons. Nous apprenons, nous l'avons vu, l'espérance. Nous apprenons l'obéissance. Nous apprenons la sainteté. Nous apprenons la soumission. Nous apprenons la bénédiction. Et c'est aussi quelque chose où nous apprenons ensemble. Nous apprenons dans la famille. Nous apprenons au contexte du monde extérieur. Et aujourd'hui, Pierre nous dit que nous apprenons au sein de l'Église. Et dans ce texte, il nous parle des anciens, des membres, mais aussi des croyants de manière générale, avec un mot d'ordre. Soyez humbles. Je vous propose que nous lisions ensemble le chapitre 5 de la lettre de Pierre. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi, qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur eux qui vous sont, en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens en vous soumettant aux uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et qui sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres avec un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous, vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Et je vous propose qu'on puisse aborder ce texte au travers de trois points. Le premier point qui nous parle d'anciens qui dirigent avec humilité. Le second point qui nous parle d'une église qui marche dans l'humilité. Le troisième point qui nous dit que, ensemble, nous sommes humbles aujourd'hui pour être élevés demain par Dieu. Des anciens qui dirigent avec humilité. Alors peut-être que la plupart d'entre vous vont me dire, mais en fait, cette partie ne m'intéresse pas vraiment, parce que bah, je ne suis pas ancien. Alors, réveille-moi juste au moment où tu parleras de l'Église. Mais je voudrais juste vous faire remarquer une chose. Regardez à qui parle Pierre. Il ne parle pas aux anciens. Il parle des anciens, mais il s'adresse à l'Église. En fait, il parle d'eux à la troisième personne. Il dit « moi qui suis ancien comme eux ». Il parle à l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est important que l'Église sache ce que c'est qu'un ancien. Qu'elle sache aussi ce que ce n'est pas ou ce qu'il ne devrait pas être. Dans les versets 2 et 3, le mot qui revient le plus souvent, c'est « mais ». Mais, ce qu'il ne devrait pas être. Pierre parle des anciens de l'Église, mais si vous regardez maintenant au verset 5, il parle des jeunes. Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre les premiers versets ? Est-ce que les anciens, ce sont des personnes âgées dans l'Église, ou est-ce que les anciens sont ici les responsables de l'Église ? Et maintenant, si vous regardez les premiers versets, vous voyez qu'en fait, il est en train de décrire ce que font ces anciens. Et ce que font ces anciens, en fait, c'est de prendre soin du troupeau. Il parle du ministère des anciens, et c'est un ministère pastoral. Et donc, il est bien en train de dire que les anciens, quand il en parle, il ne parle pas spécialement de gens qui sont plus âgés, mais de gens qui ont une fonction pastorale au sein de l'Église. Des gens qui sont appelés à prendre soin du troupeau. Et en fait, ça pose la question de pourquoi alors après, est-ce qu'il parle des jeunes ? Pourquoi est-ce qu'il fait ce contraste entre les anciens d'un côté, et puis ensuite, au verset 5, les jeunes. Et il me semble que l'on doit reconnaître que Pierre établit tout de même un lien entre l'âge et la responsabilité. En fait, quand il parle aux responsables, il les appelle des anciens, en opposition aux jeunes gens, qui laissent comprendre en fait finalement que ces anciens ont un certain âge. Dans ce texte, nous lisons en creux que les anciens dans l'Église sont des personnes dont la maturité intérieure confirme la maturité extérieure. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, j'ai que 45 ans, mais avec un petit peu de recul quand même, je me rends compte que la maturité d'aujourd'hui n'est pas la même que celle que quand j'avais 18 ans. Je n'aurais pas dit ça à 18 ans. À 18 ans, j'avais l'impression de tout connaître, j'avais l'impression que tout était réglé, que j'étais clair sur tout. Et puis à 30 ans, je me disais qu'à 18 ans, en fait, non, c'était pas vraiment ça. Et puis à 30 ans, j'avais vraiment l'impression de tout connaître et que j'avais la maturité sur tout et que ça y est, c'était fait. Et puis à 40 ans, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, à 30 ans, j'étais pas vraiment très mature et que j'avais pas tout compris, etc. Et peut-être que ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'à force de me rendre compte que j'étais pas mature, je me rends compte que finalement, je ne suis peut-être pas encore complètement aujourd'hui. Et finalement, avec l'âge, on gagne surtout en humilité de se rendre compte que nous sommes des gens qui apprenons, que nous sommes des gens qui ont besoin d'être conduits. Avec les expériences professionnelles, les déménagements, l'expérience de la vie, Dieu nous façonne, Dieu nous prépare à la charge à laquelle il nous appelle. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une personne plus jeune ne pourrait pas être ancien. Et nous voyons Paul qui confie cette responsabilité à Timothée ou à Tite, et eux-mêmes même donnent des anciens à Éphèse ou en Crète. Paul ajoute même pour Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Donc les anciens sont des gens dont la maturité spirituelle et la maturité dans la vie est reconnue. On va trouver ça plus facilement chez des gens qui ont une certaine expérience de la vie, mais ce n'est pas une règle que nous devrions avoir en Église. Et ce texte pose une deuxième question. Est-ce qu'il y a une différence entre les anciens et les pasteurs ? Est-ce que dans l'Assemblée, nous avons, nous disons, je ne sais pas si nous avons, mais en tout cas nous disons facilement que nous avons deux pasteurs et quelques anciens. Est-ce qu'il y a une différence entre Mathieu, moi, Jean-Noël, Jean-Olivier, Roland, etc. ? Ce texte nous dit que non, clairement que non. Il n'y a aucune différence entre les pasteurs et les anciens. La tâche des anciens, c'est d'être des pasteurs. La tâche des anciens, c'est d'être des pasteurs. Ils sont les bergers de la communauté locale. Ce qui est dit aux anciens, c'est de faire paître le troupeau de Dieu. Cela signifie que ce sont les anciens ensemble qui portent la responsabilité pastorale de l'Église. Et que quand vous vous adressez à un ancien ou que vous vous adressez à Matthieu ou à moi, pas que vous vous adressez à un de ceux qui portent la responsabilité pastorale, mais que cette charge est confiée à eux quand ils sont ensemble. D'ailleurs, c'est un élément clé pour le choix d'un ancien. Et récemment, nous avons nommé Guillaume. Alors c'est bien, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, ça me permet de parler de lui plus facilement. En bien. Mais si nous avons choisi, demander à Guillaume de revenir parmi nous, ce n'est pas pour faire de lui un pasteur. C'est parce que nous avons reconnu qu'il était un pasteur dans l'Église. Nous avons reconnu qu'il prenait soin du troupeau. Et nous n'avons fait que valider publiquement le fait que nous reconnaissions que Guillaume avait un rôle pastoral au sein de cette assemblée. Et ici, Pierre évoque une deuxième qualité indispensable pour les responsables d'Église, l'humilité. Regardez comment Pierre se présente. Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, moi qui ai marché auprès de lui pendant toutes ces années. Non, il ne dit pas ça, en fait. Il dit, moi, qui suis un ancien, comme eux. Il ne fait pas ici référence à son statut d'apôtre, comme il peut le faire des fois par ailleurs pour défendre son apostolat. Mais ici, il se dit juste, je suis un ancien comme eux. Un témoin de la souffrance de Christ. Le ministère d'un ancien est de faire porter les regards vers Christ. Le ministère des anciens est de le servir pour que sa gloire soit révélée. Et donc, une fois qu'il s'est présenté, il évoque finalement qu'est-ce que c'est que ce rôle des anciens. Et voici ce qu'il dit. « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Alors, on a souvent en tête cette image du berger, hein, c'est celui qui se promène avec son troupeau, il est au milieu du troupeau, puis il se promène avec son troupeau. Et là, la première chose, c'est que, ben non, il ne se promène pas au milieu de son troupeau, parce que ce n'est pas son troupeau. Ce n'est pas son troupeau, le troupeau ne lui appartient pas. Le troupeau que l'on doit faire paître, c'est-à-dire conduire, c'est-à-dire l'amener là où il pourra se restaurer, le défendre contre les dangers, ce n'est pas notre troupeau, c'est le troupeau de Dieu. Il n'y a qu'un seul berger. Il n'y a pas un berger de chaque troupeau, il n'y a qu'un seul berger qui est appelé dans ce texte le souverain berger. Mais les anciens ont charge de prendre soin de ce troupeau. Et ils le font notamment par l'enseignement. Que ce soit comme on le fait ce matin, mais aussi en petit groupe, en privé, nous enseignons, notre charge est d'enseigner le bon dépôt de la foi, de protéger l'Église des faux enseignements et de lui amener l'enseignement de l'Évangile. Et il poursuit ensuite en disant, mais comment est-ce qu'ils le font? Non par contrainte, mais volontairement. Si un ancien fait paître le troupeau, ce n'est pas parce qu'on lui demande de le faire, mais parce qu'il a à cœur de le faire. Et Pierre nous signale alors quelques dangers qu'il peut y avoir pour les anciens. Le premier danger, on l'a vu, c'est la tentation de s'attribuer le troupeau, hein, de parler de mon église plutôt de parler de l'église que je sers. Mais tout de suite, Pierre évoque un premier danger, les gains honteux. Pierre dit qu'ils ne doivent pas le faire pour des gains honteux, mais avec dévouement. Alors, c'est vrai qu'on va peut-être pas forcément trouver ça dans nos milieux. Je ne sais pas si vous avez entendu ce reportage sur TF1, il y a peut-être 2-3 semaines, où il parlait d'une église qui est maintenant classée comme secte, où ça a été filmé en caméra cachée, et je ne sais pas si c'est le pasteur, mais celui qui prêche, leur explique qu'ils doivent payer la dîme, toute la dîme, au minimum, avant leur facture, avant d'acheter à manger, avant de penser à leurs loisirs, avant de payer leur loyer, avant de... Ok, on a compris le truc, quoi. Ils prêchent la prospérité, mais c'est la prospérité personnelle. Mais peut-être que dans nos milieux, on a moins l'habitude de ça, mais ça ne nous met pas à l'abri de ce même danger. Il y a d'autres gains qui peuvent nous tenter. Et il me semble que quelquefois, le fait d'être un ancien dans l'Église est vécu comme l'accès à un statut supérieur. C'est la promotion de fin de carrière. T'inquiète pas, un jour tu seras ancien. Et là, les gens vont vraiment te regarder différemment. Tu es arrivé. Et finalement, on peut se nourrir de cela, y trouver son identité, se nourrir du regard que les autres portent sur nous. Et Pierre nous appelle au dévouement. Il nous rappelle que nous sommes au contraire au service de l'Église. Et vous savez, presque chaque semaine, on me dit, écoute, Jean-Jacques, je ne veux pas te déranger. Je voudrais bien te voir, mais je ne veux pas te déranger. Ok, mais vous ne me dérangez pas, en fait. Et vous ne dérangez aucun des anciens. Parce qu'en acceptant d'être ancien ici, ils ont dit qu'ils étaient à votre service. Donc, peut-être qu'on n'aura pas le temps de le faire. Mais en tout cas, vous ne nous dérangez pas. Nous sommes à votre service. Cela veut dire clairement que chacun d'entre vous est important pour nous. Deuxième danger que Pierre évoque, l'abus de pouvoir. Au verset 3, il appelle les anciens à ne pas diriger en dominant, mais en étant des modèles. Un politicien anglais avait cette petite phrase, « Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». Et c'est des fois un danger que l'on voit autour de nous, que ce soit chez les hommes politiques, les dirigeants, et chez les pasteurs, qui sont tentés d'abuser de leur pouvoir. Aucun ancien ou pasteur ne devrait se prévaloir de son mandat pour prendre l'autorité sur une personne. Même dans des cas de discipline. La discipline est nécessaire dans l'Église. Mais ce n'est pas mon autorité, ce n'est pas à moi de prendre autorité. La discipline est toujours exercée par l'Église et pas par une personne. Aucun ancien ne peut prendre l'autorité sur la vie d'une personne. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est bon que ce soit une collégialité d'anciens qui dirige l'Église, parce que ça nous évite de la diriger selon nos propres intérêts, parce que nous sommes humains et parce que nous avons besoin d'être protégés de cela. Et Paul exhorte au contraire les anciens à diriger en étant des modèles à l'image de Christ. Et vous savez ce que c'est que d'être ancien ? Vous êtes déjà allé chez quelqu'un qui a un poisson dans un bocal ? Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est un truc assez étonnant. Tout le monde rentre et puis regarde le poisson. C'est ça d'être un ancien. Vous êtes un poisson dans un bocal. Tout le monde vous regarde. On regarde comment vous vivez, comment vous élevez vos enfants, comment vous perdez patience avec eux, comment vous prenez soin de votre famille, comment vous parlez, comment vous êtes un poisson dans un bocal et puis les gens sont autour de vous. Et finalement, c'est effrayant à certains moments, je dois l'admettre. Et des fois même, ça nous... On se dit, ok. Mais c'est pas mal. Parce que ça nous permet de dire quelque chose de simple. Faites ce que je fais, et pas juste ce que je dis. Faites ce que je fais, et pas juste ce que je dis. Jésus a dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Alors, très sincèrement, il nous faut être humble en lisant ces textes-là. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas capable de vivre de la même façon que Jésus. Mais c'est ce que nous aspirons à faire. Et les anciens veillent les uns sur les autres pour qu'ensemble nous puissions vivre cela. L'humilité doit être le moteur du ministère pastoral parce que les anciens ne peuvent remplir leur rôle qu'en s'abaissant pour diriger les regards vers le véritable pasteur dont ils font le véritable pasteur du troupeau dont ils font eux-mêmes partie. Il n'y a pas le troupeau d'un côté et puis les anciens de l'autre. En fait, le troupeau, c'est l'Église avec ses anciens. Imaginez un jour un mariage. Et puis pour aller à ce mariage, en fait, est organisé un espèce de covoiturage. Mais comme ça faisait beaucoup de voitures, on a loué 3-4 bus. Et puis on a choisi parmi les invités 3-4 personnes où on a confiance, qui savent bien conduire, qui sont des gens prudents, qui ne vont pas se perdre. Et on leur dit, mais voilà, vous allez avoir en charge de conduire ces bus et d'amener les invités jusqu'à la fête. Mais en fait, une fois qu'on est à la fête, les chauffeurs sont des invités comme les autres. Si l'organisateur a reconnu pendant un temps leur capacité et une fonction spéciale, à la fête, ils sont des invités comme les autres. Et les anciens, c'est cela. Pendant un temps, ils sont dans le troupeau avec une responsabilité particulière. Mais un jour, nous serons à la fête et nous vivrons ensemble. Et il n'y aura pas les anciens dans une pièce. On ne va pas prendre les anciens de toutes les églises et puis les mettre à part. Nous faisons partie du troupeau comme chacun d'entre vous. Et la récompense de notre charge, nous n'avons pas à la rechercher dans l'assemblée pour y être glorifiés. Mais dans le fait que le berger de tout le troupeau reviendra un jour et que ce jour-là, nous serons tous ensemble glorifiés dans sa présence. Et Pierre l'exprime en parlant de cette couronne de gloire que nous recevons. Cette couronne de gloire, c'est le fait de partager la gloire de Christ. Mais tout le troupeau partagera cette gloire. Deuxième point, une église qui marche dans l'humilité. En fait, après avoir parlé des anciens, Pierre parle de l'Église de manière générale. Si les 4 premiers versets ne sont pas destinés aux plus âgés en âge, il me semble que Pierre joue juste sur le contraste. Il parle des anciens et puis maintenant il parle des plus jeunes pour parler de l'Église en général. Et ça, la deuxième partie du message ne concerne pas les plus jeunes d'entre nous, mais l'ensemble d'entre nous. Et il leur dit d'être soumis aux anciens. Alors, le mot soumission n'est pas spécialement populaire de nos jours. Mais je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que s'il n'est pas populaire, c'est parce qu'il est souvent mal vécu. Mais rappelez-vous que l'Esprit est soumis à Jésus, que Jésus est soumis à Dieu, et qu'il n'y a aucun problème dans cela. La soumission, quand elle est juste, ne pose aucun problème. Alors, qu'est-ce que c'est que se soumettre à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire bibliquement? Ça veut juste dire reconnaître une autorité légitime. Ça veut dire que je reconnais une autorité comme légitime. Ça veut dire que de mon propre fait, en participant à l'Église, en venant régulièrement, j'accepte de reconnaître que les anciens ont une charge particulière, qu'ils n'ont pas à me soumettre, mais que moi-même, de plein gré, je me soumets à cette autorité. Alors être soumis aux anciens, c'est respecter juste le ministère qui leur a été donné de diriger l'Église. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile à faire quand les anciens l'exercent avec sagesse en emmenant le troupeau de Christ, en emmenant le troupeau à Christ plutôt qu'à eux-mêmes. Respecter les anciens, c'est les encourager, c'est prier pour eux, pour leur famille. C'est peut-être avant de les critiquer, de nous demander si nous prions pour eux, si nous avons un moyen de l'encourager dans son ministère, si nous pouvons peut-être aller le voir seul à sœur et lui dire « Mais tu vois, j'ai pas bien compris ce que tu as dit, j'ai mal vécu cela. » Et plutôt que d'en faire quelque chose où on va dresser les gens contre les anciens. Respecter les anciens, c'est ni avoir une déférence excessive, ni de faire d'eux les défouloirs pour tous les soucis de l'Église. Et ça nous concerne, nous aussi, en tant qu'anciens. Nous respectons de la même façon et nous nous soumettons aux autres anciens. Et je suis vraiment reconnaissant de la bonne marche de l'ancienat au sein de l'Assemblée. C'est une grâce de Dieu. Nous nous rencontrons toutes les semaines, nous prions pour l'Assemblée, nous faisons le point sur le culte. mardi, nous allons faire le point sur ce que j'ai pu dire aujourd'hui. Et ils vont me faire un retour en me disant oh, « t'as été un peu dur. » Là, le verset, il dit plutôt ça. Est-ce que tu es sûr que... Et c'est bien, parce que ça permet d'avoir un équilibre au sein de l'Église. Ça permet d'avoir un regard des autres anciens sur ce que nous disons, sur ce que nous faisons. Nous parlons aussi des groupes de maison. Qu'est-ce qui se vit dans les groupes de maison actuellement ? Nous parlons des différents projets de l'Église, comment nous y participons ou pas, comment nous les encourageons, comment nous pouvons aider l'Église à avancer. Et dans chacun de ces points, il me semble que la parole de chacun est respectée. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là, mais il me semble qu'il y a un véritable désir de servir Christ et d'avancer ensemble dans la même direction, et je suis personnellement reconnaissant de cela. Troisième point, ensemble, humble aujourd'hui pour être un jour élevé par Dieu. Dans la suite de sa lettre, Pierre s'adresse à tous, donc y compris leurs anciens, pour leur dire « Mais revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Si l'humilité doit être au cœur du ministère des anciens, elle doit être aussi au cœur de chacun d'entre nous individuellement. Demandons à Dieu de nous aider à nous intéresser aux intérêts des autres et à ceux de Christ avant les nôtres. Demandons très simplement à Dieu de nous aider à nous intéresser aux intérêts des autres et à ceux de Christ avant les nôtres. Il nous dit que finalement c'est Christ qui nous élèvera. Vous savez, un jeune enfant, s'il veut s'élever, il peut se mettre sur la pointe des pieds, mais il sera beaucoup plus haut si c'est son père qui le prend et qui le met sur ses épaules. Dieu résiste aux orgueilleux parce qu'il lui résiste, mais il accorde sa grâce aux humbles, à ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien sans lui. Et cette humilité est la source de la confiance du croyant. Et je voudrais voir ça au travers à nouveau de trois rapides points. La première chose qu'il nous dit, c'est que si cette humilité est nécessaire, c'est parce que les humbles, ça fait beaucoup de humbles, les humbles s'en remettent à Dieu. Regardez au verset 6. « Dieu nous demande de nous abaisser pour que ce soit lui qui nous élève. » Et ensuite au verset 16, 7, il nous demande de nous décharger sur lui de toutes nos inquiétudes. Et souvent, on lit ces versets séparément. Et souvent, même, on les cite séparément. Vous allez trouver ça sur une carte postale, juste le verset 6 ou juste le verset 7. Le problème, c'est que dans le grec, c'est une seule phrase. En fait, il n'y a pas deux phrases, c'est une seule et même phrase. Dans le texte original, Pierre dit de nous humilier, nous déchargeant sur lui de tous nos soucis. Cela nous dit... En fait, comment nous marchons humblement en confiant nos vies à Jésus-Christ, en reconnaissant en Jésus notre Seigneur, celui qui est souverain. De manière pratique, ici, l'humilité, c'est juste renoncer à vouloir tout gérer soi-même. L'humilité pratique dans ce texte, c'est reconnaître notre besoin de Dieu. C'est renoncer à la fierté de celui qui contrôle tout. C'est nous abandonner par la foi à celui qui contrôle tout. C'est accepter de lui faire confiance, quelles que soient les circonstances, même quand nous ne comprenons pas, même quand nous n'avons aucune idée de ce que Dieu fait dans nos vies. On m'avait dit une fois, si tu souffres et que tu passes par une épreuve, il ne faut pas te demander pourquoi en un mot, mais il faut te demander pourquoi en deux mots. Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Eh bien, je dirais même que, ok, et demande-toi rien. Juste fais confiance à Dieu. Pourquoi toujours vouloir savoir tout ? Pourquoi avons-nous besoin de justifier la confiance que nous avons en Dieu ? Pourquoi ne pas juste accepter de lui faire confiance et de lui remettre les choses ? Dire pourquoi ou pourquoi n'est pas si différent. C'est à chaque fois juste une façon d'essayer de justifier Dieu dans ce qu'il fait. Si vous êtes chargé d'inquiétude ce matin, ou plutôt quand nous sommes chargés d'inquiétude, parce qu'il me semble que ça nous concerne tous plus ou moins, Regardons à la source de notre inquiétude. Qu'est-ce qu'elle révèle en nous? Est-ce qu'elle révèle un manque de confiance en Dieu? Est-ce que nous doutons de sa souveraineté ou de son amour? Ce n'est pas une formule magique, mais décidons de faire confiance à Dieu. Renonçons à toujours vouloir expliquer tout ce que nous vivons. Et disons simplement, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Tu ne m'as pas demandé de comprendre, tu m'as demandé de te faire confiance. Rappelons-nous que Dieu habille les fleurs des champs. Rappelons-nous qu'aucun moineau ne tombe sans que ce soit la volonté de Dieu. Et nous valons beaucoup plus que les fleurs, nous valons beaucoup plus que les moineaux. Comment est-ce que nous le savons? Parce que Dieu n'est mort ni pour les fleurs, ni pour les moineaux. Nous pouvons lui remettre nos inquiétudes parce qu'il n'est pas dépassé par elles. Il n'est pas inquiet de nos inquiétudes. Deuxième chose, les humbles résistent au mal. Dans la suite du texte, Pierre appelle les croyants à être sobres et de veiller. Et pourquoi? Il leur dit, mais parce qu'il y a un adversaire qui rôde et cet adversaire cherche à les anéantir. Et on se souvient que le contexte dans lequel Pierre a écrit cette lettre, un contexte de persécution qui est en train de venir, qu'ils subissent, mais qui va devenir de plus en plus fort. Il leur dit même dans cette lettre qu'ils vont subir la fournaise de la persécution. Mais ici, il leur dit que derrière ces attaques de ce monde, il y a le prince de ce monde. Jeudi passé, j'avais un rendez-vous avec Enedis. Vous savez, Enedis, c'est les gens qui vous mettent l'électricité chez vous. Donc il est venu, il m'a demandé à regarder rapidement les branchements que moi j'avais fait, le câble que j'avais tiré, si j'avais mis la bonne section. Voilà, il a fait ça un peu rapidement. Et puis après, il est allé derrière le coffret, donc sur le côté qui est réservé à EDF. Et puis là, tout a changé. Tout est devenu étrange. Il est allé derrière sa voiture, il l'a ouvert, il a sorti des gants qui lui remontent jusque là, en caoutchouc. Et on se demande comment il fait pour travailler avec. Il a mis un casque, il a baissé la visière. C'est waouh! Il a pris un outil qui lui évitait de toucher le fusible qu'il allait mettre. Donc il a une espèce de truc, puis il le tenait loin comme ça. C'est waouh! Et ça doit être dangereux. C'est un métier à risque d'être électricien. On voyait qu'il connaissait le danger. Tout dans son attitude montrait qu'il connaissait, qu'il respectait le danger qui était là. Satan est un ennemi dangereux. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Cet électricien, il aurait pu faire le cow-boy. Il aurait pu dire, oh, c'est dangereux pour les autres. Mais moi, pas de souci, hein. Je connais, je fais ça tous les jours. Ah, c'est pas ce qu'il a fait. Il a mis les gants, il a baissé la visière du casque, il a pris les bons outils, c'était un peu plus compliqué pour travailler. Mais il a montré qu'il respectait le danger de l'électricité. Alors la question se pose à nous. Comment est-ce que nous résistons à Satan? Humblement. Nous résistons à Satan. Humblement, par la foi. Parce que la foi nous rappelle que Satan est déjà vaincu, qu'il est en sursis, mais que son sort est déjà scellé pour l'éternité. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à faire les cow-boys, que nous n'avons pas à le vaincre, mais à nous opposer à lui par la foi. Comment résister au diable? Par la foi en Dieu. Pas par des incantations, pas en prenant autorité, pas en pensant que nous sommes des vainqueurs, mais en nous rappelant que Christ a vaincu, en nous reposant exclusivement sur ce que Jésus a déjà fait par la prière, en faisant confiance en Dieu, en lui disant « mais moi je ne peux pas vaincre Satan, mais toi tu l'as vaincu pour moi ». Vous savez, je raconte souvent cette histoire dans le livre de Samuel, de cette histoire de David et de Goliath. J'ai très souvent entendu dire, mais vraiment très souvent entendu, dans ta vie, il faut que tu sois un David. Prends les pierres de, je ne sais pas, la louange, la prière, là, et combat Goliath. Affronte Goliath. Tu es David. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le texte ne dit pas que nous sommes David. Aucun texte ne dit que nous sommes David. Le texte dit que David, c'est Jésus. C'est lui qui a combattu l'ennemi. Nous, nous sommes le peuple qui a peur. Nous, nous sommes le peuple qui crie victoire quand Goliath est tombé. Nous ne sommes pas David. Nous ne pouvons pas vaincre Satan. Mais Satan a été vaincu et nous pouvons nous appuyer sur la victoire de Christ. La pire des choses pour Satan, c'est quand nous continuons à faire confiance à Dieu. La pire des choses pour Satan, il est un ennemi vaincu quand nous continuons de faire confiance à Dieu dans ses promesses. Regardez la suite du texte. « Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Les chrétiens d'Asie mineure à qui Pierre écrit souffrent et vont souffrir. Ils vont affronter Néron. Ils vont affronter la persécution qui sera à l'origine de nos églises, qui fera fuir les chrétiens dans le monde entier. Ils vont souffrir. Les chrétiens d'aujourd'hui souffrent, mais leur foi, leur confiance est qu'ils ont été appelés à la gloire éternelle. C'est une certitude. Pierre ne dit pas peut-être qu'il vous rétablira, peut-être qu'il vous affermira, ou peut-être qu'il vous fortifiera, ou peut-être qu'éventuellement, ça ira. Vous serez inébranlables par la foi. Non, c'est certain, il le fera, il vous rendra inébranlables. Pourquoi c'est certain? Parce que c'est basé sur des faits qui sont déjà passés. Parce que la victoire de Jésus, elle est complète à la croix. Parce que Jésus a prononcé ces mots, c'est accompli. En parlant des attaques du diable, Pierre ne nie pas la responsabilité humaine du mal. L'adversaire incite et l'homme participe pleinement. Et la Bible nous parle de ces deux aspects du mal et du péché. Elle nous dit aussi que Dieu est le seul qui soit omniprésent, que le diable n'est pas de partout, il n'est pas derrière chacun d'entre nous. Et en fait, la plupart du temps, il n'a pas besoin de se déplacer, hein. Il nous atteint assez facilement au travers du monde dont il est le prince. Et ce monde regorge de tentations. Et à la tentation répond notre péché, notre envie de croire que nous serons plus heureux en satisfaisant nos désirs centrés sur nous-mêmes plutôt qu'en acceptant humblement les desseins de Dieu pour nous. Pourtant, regardez encore une fois dans ce texte, quels sont les desseins de Dieu pour nous? Le Dieu de toute grâce nous appelle à la gloire éternelle. C'est à ce moment-là qu'il nous fait monter sur ses épaules. Peut-être que toute notre vie, nous mettons sur la pointe des pieds. Mais c'est ce jour-là où le Père nous prend et nous fait monter sur ses épaules. Pierre assure ses lecteurs et nous-mêmes que si nous avons placé notre confiance dans la grâce de Dieu, nous sommes sur la bonne voie. En dépit des épreuves que nous pouvons vivre, en dépit des luttes et des combats, la fin est aussi sûre que la victoire de Christ. Notre destination, notre arrivée est aussi sûre que la victoire de Christ à la croix. Parce que Christ est ressuscité, nous dit Paul, notre foi est valable et nous permet de nous tourner en sécurité vers l'avenir. Le Dieu qui ne s'appuie pas sur nos mérites, mais sur le sien, nous destine à la gloire. Et c'est ça qui nous permet d'être humbles aujourd'hui, sans pression. Rien ne repose sur nos épaules, mais sur les épaules de Christ, sur lesquels il nous fera monter, si vous me pardonnez l'image. Dernier point, les humbles ne sont pas seuls. Regardez la fin de cette lettre. Cette vie ne se vit pas seule, mais elle se vit en solidarité. Au verset 9, Pierre nous rappelle que ce n'est pas nous qui sommes attaqués, mais que c'est le peuple de Dieu en entier qui est attaqué. Nous ne sommes pas seuls dans l'épreuve, mais membre d'un peuple nombreux qui est attaqué. Pierre les salue depuis Babylone. Alors, par Babylone, il faut comprendre Rome, en fait. À l'époque où Pierre écrit, Babylone n'existe plus. Mais de la même façon que Babylone représentait l'empire qui s'attaquait au peuple de Dieu, Rome va représenter la même chose, et notamment au travers du personnage de Néron. Les chrétiens auxquels Paul écrit en Asie mineure et à ceux de Rome, en fait, ne se sont jamais rencontrés. Ils ne savent rien les uns des autres. Mais ils se saluent au nom de l'unité qu'ils vivent en Christ. Pierre est à Rome avec des chrétiens et il salue l'église d'Asie mineure. Ils ne se sont jamais vus. Puis il n'y avait pas d'email. Mais ensemble, ils sont le peuple de Dieu unis dans un même combat. Nous passerons un jour l'éternité avec ses frères et sœurs, mais aujourd'hui, nous sommes unis en Christ. Et à ce titre, je voudrais vous recommander le ministère de Porte Ouverte qui nous ouvre les yeux sur la persécution des chrétiens dans ce monde. Et Jean-Olivier l'a évoqué tout à l'heure. Des gens qui ne se réunissent pas en liberté, des gens qui ferment les fenêtres avant de commencer de prier. Je suis toujours frappé par ce témoignage que j'avais entendu d'un chrétien en Corée du Nord, je crois que je l'ai déjà dit, qui disait le dimanche, on ne s'assoit pas à deux sur un banc, parce que ça risque d'être une église. Vous vous rendez compte de ce que peuvent vivre les gens aujourd'hui? Peut-être qu'on a des fois du mal à s'en rendre compte, et je trouve que le ministère de Porte Ouverte nous ouvre les yeux. Et vraiment, c'est peut-être quelque chose de chouette si en groupe de maison, on peut prendre semaine après semaine un point de Porte Ouverte et nous ouvrir les yeux aussi sur le fait que le peuple de Dieu est un peuple attaqué et nous ne sommes pas seuls. Mais il y a une deuxième chose dans le texte. Regardez juste après. En fait, Pierre invite à vivre la même chose au sein de l'église locale. Il dit de se saluer par un baiser de l'amour. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement. Est-ce que c'était une embrassade? Je ne sais pas. Mais en tout cas, globalement, ça parle d'hommes et de femmes qui sont proches les uns des autres. Des gens qui, quand ils se disent bonjour, ils ont un peu plus à se dire que la météo, quoi. Ça va, il fait beau? Non, c'est comme hier, t'habites en Franche-Comté. Pardon. Vous savez ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé ici? J'avais entendu ça. Quand tu vois les montagnes, c'est qu'il va pleuvoir, et quand tu les vois pas, c'est qu'il pleut déjà. C'était le mot de bienvenue. Ça nous parle d'hommes, de femmes qui sont proches des uns des autres, des chrétiens qui partagent leur joie, leur peine, leurs difficultés, qui se connaissent. Et nous voulons vivre cela, notamment au travers des groupes de maison. C'est l'objet des groupes de maison. J'aime beaucoup les études bibliques, mais pour moi, ce n'est pas le plus important du groupe de maison. Pour moi, le plus important, c'est qu'on prie les uns pour les autres, qu'on apprenne à se connaître, qu'on se fasse confiance et qu'on puisse partager ce qui nous éprouve. Et ça, c'est facile à faire. Il n'y a pas besoin d'un grand enseignant, il n'y a pas besoin de grand-chose. Alors, on a des groupes de maisons à Allonjoie, Etup, Montbéliard, Héricourt, Mandeur, Senoncourt, Roche-les-Blamont, Joncheret, Belfort. Le soir en semaine, l'après-midi à Etup, le vendredi, il y a un groupe de maisons près de chez vous. C'est vraiment un lieu privilégié auquel nous vous encourageons d'aller. Pour les anciens, c'est un lieu où nous vivons ensemble, où nous nous soutenons les uns les autres. Et je voudrais juste conclure avec ces mots de Tim Keller qui sont extraits de son livre sur l'humilité. Je pense que vous pouvez trouver l'humilité. Tu te rappelles du titre, déjà, Olivier ? La liberté dans l'oubli de soi, ou un truc comme ça. Un livre jeune, je suis sûr qu'il l'a, ou qu'il devrait l'avoir. L'humilité, selon l'Évangile, consiste à ne pas devoir penser à soi, ne pas devoir ramener les choses à soi. C'est la fin des pensées telles que « je suis dans cette pièce avec ces personnes, de quoi ai-je l'air ? Est-ce que je suis ici à ma place ?» La véritable humilité, selon l'Évangile, signifie d'arrêter d'associer chaque expérience, chaque conversation avec moi-même. En fait, j'arrête simplement de penser à moi. La liberté dans l'oubli de soi, le repos béni que seul l'oubli de soi apporte. Je voudrais encore prier avec vous. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ton humilité. Ton humilité qui t'a fait renoncer à ta position céleste pour venir t'abaisser jusqu'à nous. Tu as renoncé à toi-même pour venir pour nous, marcher sur cette terre comme un simple homme, comme un serviteur. Tu as été cloué sur une croix qui était le traitement réservé aux hommes les plus misérables, aux pécheurs les plus grands. C'est cette place que tu as accepté de prendre pour nous. Et nous voulons te suivre sur ce chemin, reconnaissant que nous sommes en lutte avec nous-mêmes, reconnaissant notre désir d'exister par nous-mêmes. Nous te prions pour les anciens de cette Église, et je m'inclus dedans, te priant que tu nous aides à marcher humblement, que tu nous aides à diriger cette assemblée de la même façon que toi, en enseignant, en te montrant toi, en montrant ta parole, en montrant qui tu es, en montrant ce que tu veux, et en laissant ta parole agir dans les cœurs. Nous te prions aussi que tu nous aides en tant qu'Église tout entière de nous oublier nous-mêmes et puis de penser aux autres, de mettre les autres en premier dans nos vies pour que nous puissions t'honorer, pour que ton peuple puisse grandir ici à Étup et puis dans tous ces groupes de maisons dont nous avons parlé, pour que un jour, ce soit toi qui nous élèves dans la gloire. Pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que tu as fait, à cause de la foi que nous avons dans ce que tu as fait. Nous te prions que cette foi nous transforme au jour le jour. Te supplions d'agir parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.